m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Le saviez-vous, les ronds-points sont une invention française puisque c'est l'architecte et urbaniste Eugène Hénard qui eut l'intuition géniale de créer des terre-pleins au milieu de certains carrefours parisiens afin d'en fluidifier la circulation. C'était en 1906, il ignorait alors que plus d'un siècle plus tard, son invention deviendrait l'épicentre d'un conflit social inédit et que l'enjeu n'en serait plus de fluidifier le trafic mais au contraire de le bloquer pour faire avancer sinon des véhicules, du moins des revendications. C'est pour sortir de ces blocages que le gouvernement français a lancé ce grand débat national et nous en prenons notre part aujourd'hui sur RFI en espérant que le débat ne tournera pas trop en rond et en croisant les regards de nos quatre invités avec une double question en forme de clin d'œil. La crise des gilets jaunes s'inscrit-elle dans une culture de la contestation et se traduit-elle par une contestation de la culture ?
RFI.
Autour de la table du studio, l'historien Pierre Cernat, spécialiste de la Révolution française et professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Philippe Pascot, écrivain, gilet jaune, ancien élu à la mairie d'Évry et au conseil régional d'Île-de-France, toujours directeur de la Halle du Roc à Évry. Son dernier livre, Pilleur de vie, est disponible aux éditions Max Milo. En ligne avec nous, Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, revue qui a lancé le grand débat de la culture avec la Fondation du patrimoine, et Christian Benedetti, acteur, metteur en scène, directeur du Théâtre Studio d'Alfortville, en région parisienne, et candidat sur la liste de la France Insoumise aux prochaines élections européennes. Bonjour à tous les quatre, et merci
Bonjour.
D'être avec nous.
Bonjour.
La parole à l'historien pour commencer, Pierre Cernat. Pour vous, ce mouvement des Gilets jaunes s'inscrit-il dans la grande tradition de la contestation à la française ou s'agit-il plutôt d'un mouvement inédit ?
Non, à mon avis, il y a une grande tradition. Il y a une grande tradition de la contestation en France et une grande autonomie, non seulement des individus, mais des collectivités par rapport à ce qu'elles ressentent comme des injustices vis-à-vis des pouvoirs tels qu'ils se constituent depuis désormais 400, 500 ans avec un État monarchique qui, par rapport au reste de l'Europe, est très vite régalien et avec également donc des institutions nationales qui se font ressentir à l'intérieur de l'espace français et qui s'exprime en fait au travers de deux piliers qui constituent l'État en France et ailleurs, mais qui constituent la modernité politique, qui sont les impôts et la guerre. Les impôts et l'ordre public. Les impôts pour financer la défense de l'État, les impôts pour financer la tranquillité, l'ordre public. Cela est lié. Et donc, on a en France, depuis le début du XVIe siècle, avec la montée sur le trône de François Ier, dit-on le premier roi moderne, on a une tradition de la contestation, puisque les rois ne cessent d'augmenter les impôts, les taxes, parce que la guerre est toujours aux frontières, parce que ils veulent contrôler toujours plus l'ordre public.
Mais là, la guerre n'est pas aux frontières. Pierre Cernat, moi que ça m'est échappé, mais...
Moi aussi. Alors ça, je vous prie...
Elle est peut-être à l'intérieur des frontières, d'ailleurs.
Je vous prie de m'excuser, mais vous savez que le président Hollande a été, avant le président Macron, celui qui a demandé aux historiens spécialistes de la guerre de définir ce qu'était un état de déclaration de guerre pour que l'affaire au Mali ne soit pas simplement une simple opération militaire. En assumant et en continuant sur les terrains étrangers de cette politique de guerre, le président Macron assume le fait que la France est, comme d'habitude, j'allais dire depuis 200 ans, un pays qui s'immisce dans la politique des autres pour faire la guerre.
Et c'est précisément parce que le budget de la défense coûte tant à la nation, selon vous, que se posent les problèmes de pouvoir d'achat et la pression fiscale qui pèse sur la population ?
Non, ce que n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je vous dis que l'État en France est un État régalien, donc qui, en fait, multiplie et augmente les taxes qui reposent de façon injuste, généralement, sur une masse de la population qui n'est pas en fait la plus fortunée, c'est-à-dire que le grand impôt de progressivité, voire de surtaxation des plus fortunés, ne fonctionnant plus, et l'État ayant toujours des besoins multiples d'ailleurs, eh bien oui, je veux dire par là que cet État donc fait peser sur la masse des Français une pression fiscale qui est ancienne et qui renvoie à une culture de la contestation.
Oui. D'où effectivement le sentiment d'injustice ressenti par une partie de la population. population et singulièrement par les Gilets jaunes. Philippe Pascaud, vous en êtes depuis le début du mouvement.
Non, mais même avant.
Et même avant. Et peut-être même d'ailleurs que l'on entend aussi monter durant des rangs des Gilets jaunes depuis plusieurs mois maintenant une référence continuelle aux révolutions au sens, enfin au pluriel, qu'il s'agisse des révolutions de 1789, de 1848, de mai 68. Alors après, le débat est toujours ouvert pour savoir s'il s'agit ou non d'une révolution en 68. Comparaison n'est pas raison, Philippe Pascaud, mais est-ce qu'il y a une forme de filiation selon
Non, je crois pas, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que cette évolution qui se passe en ce moment au niveau des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Je veux dire, 4 mois où les gens sont dans la rue. Et contrairement à ce que j'entendais précédemment, moi je crois pas qu'il y ait une culture de la guerre en France, il y a une culture du profit à outrance. Et une culture du profit à outrance pour quelques-uns. Ce qui, quelque
plus
part...
plus en France qu'ailleurs, dans le monde occidental?
Pas spécialement plus en France qu'ailleurs, mais le monde allant tellement plus vite, la technologie allant tellement plus vite, les profits allant aujourd'hui de tellement plus vite, ce qui quelque part est une forme de guerre, mais c'est plus le même mot. Il y a très très peu de gens qui ont de plus en plus, et de plus en plus de gens qui ont de moins en moins. À un moment donné, ça ne peut qu'éclater. Et aujourd'hui, ça éclate en France, parce qu'on sait lire, on sait écrire, on sait regarder, et les gens, le peuple, en a marre d'être pris pour des dindons. On a marre d'être juste des citrons qu'on pressure, et à qui on demande merci d'avoir été pressuré. Et ça, les gens n'en peuvent plus. Mais rappelez-vous, aujourd'hui, 4 mois. Ça fait 4 mois que les gens descendent dans la rue, dans toute la France, pour dire ça suffit.
Alors ce mouvement continuel, qui ressort tous les week-ends, mais qui n'est pas non plus complètement calmé le reste de la semaine, Pierre Cernat, là, il y a une dimension inédite, justement, comme le signifie à l'instant Philippe Pascaud.
Il y a une dimension inédite, mais si vous reprenez l'immense livre de Jean Nicolas, au merveilleux titre, « La rébellion française », qui est une étude de 8500 grèves, manifestations, actes de rébellion, actes de désobéissance au pouvoir royal entre 1660 et 1789. Jean Nicolas montre que dans des communautés villageoises, sous-entendu des communautés un petit peu perdues, loin de la culture, il y a une culture du combat, une culture de l'autonomie, une culture de la contestation qui se répète pas simplement de samedi en samedi, ça n'enlève rien à la force du mouvement des Gilets jaunes, mais de génération en génération. Jean-Nicolas repère des villages dans le Périgord, repère des villages dans le Vivarais, repère des villages en Bretagne qui sont en conflit avec leur seigneur, qui sont en conflit avec les officiers du roi pendant la quasi-totalité du XVIIIe siècle.
D'ailleurs, ça s'est mal terminé pour Paul. Ils ont même fait des cahiers de doléances.
Alors, justement, c'est intéressant que vous parliez de cahiers de doléances. Philippe Pascaud, vous avez à l'instant aussi employé un mot très important qui revient très souvent dans la bouche des Gilets jaunes, c'est le peuple. Nous sommes le peuple. Hein. Oui. On dit les Gilets jaunes depuis le début. Cahiers de doléances, peuple, on voit des drapeaux tricolores, on voit des bonnets phrygiens dans les manifestations. Oui. Il y a des guillotines aussi.
Pas pour le peuple, la guillotine.
Non, mais attendez, laissez-moi terminer mon raisonnement, vous voyez, la guillotine effectivement qui n'est pas pour le peuple mais plus pour le pouvoir exécutif, il y a des effigies du président de la République qui ont ainsi été coupées en deux, pour reprendre une expression qui a fait Florès il y a quelques années, il y a une dimension régicide comme ça, on a découpé des mannequins, on en a brûlé certains autres. Est-ce que Pierre Cernat, cette rhétorique révolutionnaire là, rappelle la Révolution française, c'est une réalité, mais est-ce que ça s'appuie sur quelque chose de tangible, au-delà du symbole?
Oui, là, il y a eu quelques aspects spectaculaires. Mais en fait, moi, je voudrais revenir...
Mais l'image, ça compte quand même beaucoup aujourd'hui dans la société du spectacle qui est la nôtre.
Extrêmement. Ça compte énormément. Mais puisque moi, je suis historien, vous me permettrez, derrière l'image, d'analyser aussi ce que porte l'image, le symbole.
C'est ce que je vous demande de faire,
absolument. Et aussi la situation sociale que porte l'image. Avant ces spectaculaires faits, il y a aussi des organisations. Il y a aussi des prises de parole. Il y a aussi des organisations spontanées. Il y a aussi des manifestations. Et là, on a aussi d'autres choses qui sont peut-être moins relayées, moins médiatiques, plus pacifiques, plus ordonnées, plus raisonnables, et qui sont ce pourquoi vous nous avez invités, la naissance de la culture politique. C'est une chose de dire de façon spectaculaire, pour être vu, on va couper en deux le président, c'est autre chose de passer à l'acte. On l'a fait deux fois dans l'histoire, une fois en Angleterre en 1649, une autre fois en 1793.
Oui, mais quand on parle d'états généraux, quand on parle de cahiers de doléances...
Vous voyez, c'est vous qui le dites.
Non, c'est les Gilets jaunes qui ont parlé d'états généraux, et c'est les Gilets jaunes aussi qui ont parlé de cahiers de doléances, pas moi,
Quand
départ.
On
s'inscrit aussi dans une forme de culture de la contestation qui fait référence à la Révolution française.
Je rappelle quand même que les cahiers de doléances et les Gilets jaunes, je suis d'accord avec vous,
Philippe Pascaud,
pour l'instant ne sont absolument pas pris en compte par nos gouvernants.
Alors, c'est l'idée du grand débat, on va voir sur quoi ça va déboucher.
Mais justement, vous voyez,
sur la rhétorique, justement.
Ben oui, mais je pense que vous le voyez bien en termes de politique et de comparaison avec anachronisme prudent, bien sûr, de la part de l'historien que je suis. Le débat national, Emmanuel Macron l'a fait contraint et forcé par la mobilisation des Gilets jaunes. Or, qui dit débat national, en fait, dit quoi à la fin? Au moins, avec Louis XVI, lors du règlement du 24 janvier 1789 promulgué par Necker, c'était clair. Il y avait des cahiers de doléances avec, à la fin, états généraux. Là, nous sommes dans un flou très dangereux et très risqué pour le président lui-même, parce qu'il provoque un débat national, mais il ne dit pas ce qu'il va y avoir à la fin. Donc, provoquer un débat national sans demander aux représentants...
Il a dit qu'il n'y avait pas de tabou...
Sans de représentants... Non, mais il a quand même indiqué quand même quatre thèmes.
Oui.
Là où le roi Louis XVI
a cadré le débat.
Là où le roi Louis XVI a été bien plus libéral que lui, en disant que tous les sujets pouvaient être abordés. Donc là, je pense que l'histoire nous dit qu'à un moment donné, en janvier 1789, on a été beaucoup plus conséquent politiquement. Là, nous sommes dans un flou, comme d'habitude, où on ne sait pas où on va. Oui.
Alors, Fabrice Bousteau, vous êtes inscrit, on va y venir en détail dans un instant, dans ce grand débat, puisque vous êtes donc l'un de ceux qui ont lancé ce grand débat de la culture. Avant d'y venir plus précisément, je voudrais avoir votre sentiment, votre analyse, justement, sur la situation de la France et sur cette mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, qui êtes à la fois un journaliste et un homme de culture, elle s'inscrit dans cette culture de la contestation que Pierre Cerna développait à l'instant?
Alors, un premier point, vous parliez des impôts au début, origine de la contestation. Il faut rappeler qu'en France, il y a 57% des Français qui ne payent pas l'impôt.
L'impôt sur le revenu, il faut le préciser. Revenu. Oui, parce qu'il y a aussi la TVA que tout le monde paye.
Et il y a combien d'entreprises qui n'en payent pas plus?
On peut parler de la TVA, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que 43% des Français payent l'impôt, et ce qu'il se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de foyers imposables, et par contre, un impôt moyen par foyer qui augmente. C'est forcément aussi source de contestation, et on a bien vu que dans cette manifestation des Gilets jaunes, ce ne sont pas forcément les plus déshérités en France qui ont contesté et qui sont mobilisés. C'est ceux qui justement payent des impôts ou payent des taxes. C'était juste un petit rappel par rapport au début de l'émission. Est-ce qu'il y a une relation entre la culture de la contestation et la contestation de la culture? On y reviendra tout à l'heure. Je crois en tout cas qu'il y a aujourd'hui dans le domaine de la culture, quand il y a une fracture sociale, il y a une fracture culturelle. Elle est absolument liée. C'est-à-dire, quand il y a fracture sociale, il y a fracture culturelle. Par contre, il y a parfois fracture culturelle quand il n'y a pas fracture sociale. Donc il y a aujourd'hui en France, c'est indéniable, une fracture culturelle. C'est pour ça qu'on a appelé Beaux-Arts Magazine et la Fondation du Patrimoine à créer ce grand site internet, legranddebatculture.fr, et qu'on a tout fait pour organiser des débats en France sur la culture, parce que la culture, c'est ce qui fonde une nation. On oublie d'ailleurs, on parle souvent d'éléments économiques. Il faut savoir que, d'une part, la culture est un des secteurs de l'économie les plus importants, il dépasse celui de l'automobile, et que la culture, elle est présente dans tous les foyers. Dans tous les foyers, c'est-à-dire dans tous les foyers, il y a une œuvre d'art ou une reproduction d'une œuvre d'art. Dans tous les foyers, on écoute de la musique, dans tous les foyers, on est marqué par un livre, et on ne voudrait pas parler de la culture quand c'est ce qui fonde un peuple et une nation. Rappelez-vous, quand on a créé la communauté européenne, quand on a voulu créer l'euro, on a fondé l'Europe sur une monnaie, et on a essayé sur cette monnaie au tout début d'avoir un monument commun à l'Europe. On n'en trouvait pas. On ne trouvait pas de monument commun à l'Europe. Et c'est pour ça qu'il est grand temps de pouvoir travailler en profondeur sur ce qui nous anime collectivement en France d'un point de vue culturel et également en Europe. Parce qu'on est à la veille d'élections européennes. Je fais une parenthèse, mais le budget consacré par l'Europe à la culture, c'est 0,009%.
Ce qui nous dérange, c'est qu'on divise les gens entre le mauvais gilet jaune et le gentil citoyen.
Vous êtes des sales menteurs, vous ne faites pas dans le social. Vous avez bloqué l'ascenseur, normal que l'on n'ait pas le moral. Bah ouais, ça vous n'en avez pas, c'est pas qu'une question de gasoil. On ne vit pas que des aléas, il est temps de vous ôter le voile. Vous nous taxez plus que ce que l'on gagne, la paix aux oubliettes. Si vous pouviez, vous prendriez notre âme aussi tant que vous y êtes. On travaille plus pour gagner moins, le changement c'est pas maintenant. Le SMIC n'a pas bougé de son coin, mais tout augmente, c'est indécent.
Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues. Escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe, c'est fou. Je sais pas si tu réalises, ils tirent sur nous, mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi, je te dis que t'as hurle. C'est pas la tienne, c'est la nôtre, mais que ta dictature, on en veut plus.
Je veux agir pour cette terre. Je veux bâtir pour être fier. Je veux un peuple uni et frère. Je veux l'amour dans nos prières. Je veux des sourires dans la rue. Loin des politiques corrompues. Pour pouvoir passer au-dessus. Loin des promesses jamais tenues. Des référendums populaires. Des décisions lapides et claires. Récupérer ce que l'on perd. L'humanité face au monétaire. Nos discours mal entendus. Seul le mépris nous est rendu. La stratégie est adoptée. Nous diviser, c'est mieux régner.
Fin du monde et fin de moi, on ira. Fin du monde et fin de moi, toi et moi. Fin du monde et fin de moi, on ira. Fin du monde et fin de moi, même combat.
Toi le salarié, l'agriculteur, le retraité, l'entrepreneur. Écolier, chauffeur, livreur, ton père, ta mère, tes frères et sœurs.
Sortez les gilets contre ce gouvernement. Montrons qui on est, ça ne sera plus comme avant.
Liberté, égalité, fraternité ont déserté. Ton peuple est fâché de toujours être trop taxé.
France, c'est l'heure de la révolution.
De l'antipathie,
des gentils,
qui fait 70%.
Méchant,
qui gaz au bon de la crise,
les gentils,
et qui se retrouve devant.
Voilà, quelques-unes des chansons nées en France dans le sillage de ce mouvement des Gilets jaunes. Il y en a beaucoup d'autres, en particulier du rap et des parodies à foison. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde culturel s'est montré plutôt timide, hein, voire timoré. Philippe Pascoe, hein. Il y a eu les rappeurs Jules et Caris, il y a eu Brigitte Bardot dans un autre style, oui. Il y a eu les humoristes Franck Dubosc et Jean-Marie Bigard, le chanteur Francis Lalanne, qui ont également emboîté, si j'ose dire, le pas des Gilets jaunes. Mais les têtes d'affiche, elles ont été quand même assez discrètes, vous regrettez cette frilosité?
Je regrette, mais je le comprends. Quand vous êtes dans un climat de peur et de tension, quand vous êtes dans un climat de répression, quand aujourd'hui vous savez qu'il y a 9 personnes qui possèdent la plupart des journaux, quand vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, le pouvoir de donner et de faire est tenu entre quelques mains. Quand vous avez Jean-Marie Dumontet, que j'aime bien.
Jean-Marc Dumontet,
qui est un
producteur de spectacle.
Très connu et très connu.
Producteur de théâtre, directeur du théâtre.
Très proche de M. Macron. Je comprends que certains interprètes, certains artistes ont peur de s'engager par rapport. Puis bon, vous savez bien qu'un artiste.
Il y a eu Berléand qui, lui, a pas eu peur de dire que.
Il y a toujours un type.
Ça l'emmerdait.
Mais oui, les Gilets jaunes, c'est utilisé. Mais les Gilets jaunes ont emmerdé. Faut le dire. Mais si les jaunes n'avaient pas emmerdé, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Si les gilets jaunes sont sortis dans la rue, c'est pas parce qu'ils le voulaient, hein. Faut pas croire que c'est du jour au lendemain, c'est vraiment parce que les gens n'en pouvaient plus. Et que quelque part, depuis quatre mois, personne ne les écoute. Et quand j'écoutais le monsieur d'avant, là, que vous interviewez.
Fabrice Bousteau, qui est toujours en ligne avec
oui,
nous,
bonjour,
je vous entends.
Qui disait que 57% des gens ne payaient pas. Mais arrêtons de culpabiliser les gens, ça suffit. Est-ce qu'on parle des gens qui ne payent pas d'impôts en France? Les entreprises, les 100 milliards de fraude fiscale, pardon, d'optimisation fiscale, les 40 milliards du CICE, les 5 milliards de la flat tax, les 57 milliards de fraude sur le cum-cum, ça en fait beaucoup d'argent quand même.
Alors, et là, Fabrice Bousteau, répondez rapidement à Philippe Pascoe et puis je voudrais qu'on avance. Allez-y. Fabrice Bousteau.
Oui, non, un point important, en tout cas, ce que montre le mouvement des Gilets jaunes, à mon sens, c'est la faillite de la République en termes d'égalité et d'éducation populaire. Pour un point, c'est qu'effectivement ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une contestation permanente de toutes les élites, y compris des élites en matière culturelle. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, il faut préciser que la France est sans doute le pays du monde où il y a eu la politique culturelle de la part de l'État, des communes, la plus riche, la plus développée, des associations et des particuliers également. Mais en dépit de cette politique culturelle unique au monde, on remarque aujourd'hui qu'il y a une vraie fracture culturelle. Il y a d'ailleurs aussi, il faut le dire, de la part des gens qui travaillent dans la culture, une très grande précarité et des revenus extrêmement faibles. Mais ce que montre avant tout le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce rejet global des élites Pourquoi, si on, part, on revient sur la culture, c'est qu'indéniablement aujourd'hui, il y a une faillite du système scolaire qui fait que, selon l'endroit où l'on est, on n'a pas la même éducation. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense que tous les enfants devraient avoir accès à la même type de culture. On devrait enseigner l'histoire de la musique, qu'elle aille du jazz à la musique classique, au rap, au hip-hop, à l'électro, à tout le monde. L'histoire de l'architecture. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on possède un minimum d'ouverture sur le monde grâce à la culture, on devient beaucoup plus libre.
Alors.
Et on le sait, c'est une évidence. Donc il y a une faillite, à mon sens, avant tout, de l'éducation.
Pierre Cerna.
Oui, je voulais revenir sur un sous-entendu, peut-être l'ai-je mal compris, qui faisait que c'était surtout ceux qui étaient les plus défavorisés ou les plus démunis qui étaient les plus aptes ou immédiatement critiqués. C'est une critique en tant qu'historien que j'entends sous l'ancien régime. Vous critiquez parce que vous n'êtes pas au pouvoir. La révolution des, ce qu'on appelle les Rousseaux des ruisseaux. Et c'est facile dire, on conteste parce qu'on n'a pas le pouvoir. Sous-entendu, si vous aviez le pouvoir, vous ne contesteriez pas et donc ça délégitime toute forme de contestation. Mais c'est en partie faux. Quand on voit la culture, puisqu'on parle de culture ici, de contestation sous l'Ancien Régime, elle s'exprime de deux manières. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas les plus pauvres. Ben, les plus pauvres, ils cherchent, comme on le disait avec Philippe Pascot tout à l'heure, ils cherchent simplement à survivre. Pour eux, leur souci n'est pas tant de se mettre au courant des dernières lois antisociales du gouvernement, c'est de trouver un moyen de survivre. Et c'est cela qui est intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des gens qui travaillent la semaine, s'ils manifestent le samedi, c'est bien pour une raison tout à fait particulière. Et c'est pareil sous l'Ancien Régime. On a en fait aussi des gens dans les villages qui sont des paysans aisés, c'est pas simplement les manouvriers, on a les petits notaires, on a les petits lettrés, on a les petits maîtres de campagne, mais qui vont aussi...
Et c'est eux qui ont été les fers de lance de la contestation.
Mais je voudrais ajouter autre chose. Il y a deux types de manifestations qui révèlent une vraie culture politique sous l'Ancien Régime, et ça c'est très important. Il y a celle qui est spectaculaire, parce qu'on va d'un village à l'autre, déjà dans une procession laïque qui va s'appeler la manifestation. Mais il y a déjà l'apprentissage du combat légal, c'est-à-dire que toutes ces communautés villageoises sur lesquelles tant d'historiens ont travaillé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, non seulement peuvent se mettre en colère, mais elles payent ensemble des avocats pour aller plaider leur cas dans les parlements du roi, contre les seigneurs qui abusent contre les biens communaux dans les forêts, contre les seigneurs qui abusent contre les biens autour de la rivière, contre le gibier du seigneur qui détruit les récoltes. Ce n'est pas une légende, c'est parfaitement écrit dans des milliers de cahiers de doléances. Donc ces communautés, non seulement elles contestent de façon vive, mais aussi elles ont intégré la culture juridique. Et ça, c'est très important pour la politisation et la culture de la politisation de ces millions de Français pendant le XVIIIe siècle.
Ce qui prouve, monsieur l'historien, que nous sommes quand même en régression. Parce que aujourd'hui...
Je ne vous le fais pas dire.
Aujourd'hui, on met les gens en prison avant qu'ils aient contesté. Avant même qu'ils aient contesté. Ah non, j'en ai les preuves aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, il y a des gens.
En garde à vue, pas forcément en prison.
Des gardes à vue, c'est où?
Enfin, juridiquement, il y a une petite différence. Oui, mais le commissariat, c'est pas dans un centre
pénitentiaire. Juridiquement, on est d'accord, mais c'est où la garde à vue? Ça se passe où? Ça se passe dans un commissariat, ça se passe dans une cellule.
Dans un commissariat.
Dans une cellule,
oui.
Donc, bah, excusez-moi, je suis un petit peu pragmatique, j'appelle ça une prison, même si ça s'appelle une garde à vue. Et on le fait aujourd'hui avant que les gens contestent. Donc on est en régression sur la liberté de pouvoir contester.
Voilà,
et ça, c'est
grave.
On
a déjà parlé dans cette émission sur la loi à propos
c'était
de la
juste
liberté
pour répondre
de,
par rapport
la liberté
à Louis XVI.
De manifester.
En fait, alors, quand on fait du sous Louis XVI.
Mais alors, Fabrice Bousteau, pour revenir à la question justement de la culture, vous avez entendu Pierre Cerna il y a un instant, et c'est vrai que ça nous ramène justement à cette absence de débat autour de la culture en ce moment en France. C'est vrai que quand on a du mal à remplir son frigo ou à mettre de l'essence dans sa voiture pour aller travailler, on va pas forcément aller se battre pour une place de cinéma, pour une place de théâtre ou pour un fauteuil à l'opéra, non ?
Mais McDonald's s'en occupe, cher monsieur.
Fabrice Bousteau.
Évidemment, vous avez totalement raison et c'est d'autant plus vrai que de toute façon, on ne va pas se battre pour la culture tant qu'on n'y a pas goûté. Je reviens sur ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inégalité profonde d'accès à la culture. Cette inégalité, elle vient avant toute chose de l'éducation nationale. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en France des zones blanches, c'est-à-dire des zones où il n'y a aucune offre culturelle. Il n'y a pas de théâtre, pas de médiathèque, pas de bibliothèque, rien. c'est une petite partie de la France, puisque la France est quand même partie des pays où on a développé le plus grand nombre d'infrastructures culturelles. Mais ce ressenti de l'absence de la culture, quand même, dans les grands débats qu'on a menés et sur les interventions que l'on voit sur la plateforme, sur le grand débat culture.fr, beaucoup de gens appellent par exemple à des structures mobiles. Ce qu'a lancé Didier Fusier à la Villette, qui sont ces microfolies, c'est-à-dire des structures qui puissent arriver avec des grands écrans, on puisse avoir accès à la culture mondiale, avoir aussi bien des œuvres en très grand format du Louvre, aussi bien un opéra, aussi bien un concert hip-hop, et dans lequel il y en a à peu près aujourd'hui une dizaine qui ont été créés en France. Je crois qu'il y a à peu près 70 qui vont être créés dans l'année, et qui vont permettre de goûter à la culture.
Alors c'est très concret.
On ne peut pas avoir envie de culture tant qu'on n'y a pas goûté.
Alors rapprocher l'offre culturelle de ceux qui aspireraient à y avoir accès, Philippe Pascaux, c'est très concret, c'est une bonne idée.
Mais c'est une superbe idée, sauf qu'aujourd'hui, comme il n'y a aucune volonté politique, et au contraire, la volonté politique, c'est d'abaisser les gens dans la notion de la simple culture. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, McDonald's entre dans la culture française. C'est McDonald's qui propose des livres à l'international. Quand vous voyez ça, quand vous savez que les émissions culturelles entre ou les débats publics se passent chez Hanouna, voire Madame Chapia, quand on sait que Monsieur
Chiappa
fait ses débats publics chez Hanouna, que Monsieur le Président de la République fait ses débats publics téléphone. Le jour de l'anniversaire de la culture, elle est vachement bien représentée en France. Mais quand vous avez des exemples qui viennent d'en haut, qui quelque part abêtisent la culture en France, il est évident qu'elle ne peut pas se développer.
Alors, en tout cas, beaucoup Fabrice Bousteau.
D'accord sur ce point, c'est que, pour vous donner un exemple, j'ai fait une réunion récemment avec l'INA pour pouvoir mettre sur le site de Beaux-Arts Magazine, sur beaux-arts.com, des archives de l'INA, d'entretiens avec des artistes, des extraits. Et le constat, il est très clair, c'est que le nombre d'émissions consacrées à la télévision, que ce soit les chaînes publiques ou les chaînes privées, le nombre d'émissions consacrées à la culture, tout domaine confondu, c'est-à-dire que même si on prend le domaine de la musique, il n'y a plus d'émissions consacrées au rock, à la musique électro, au hip-hop, sur aucune chaîne de télévision, à part Arte, alors que ça existait avant sur France 2,
sur les chaînes gratuites, sur les chaînes de la TNT, parce que si vous avez les moyens de payer des chaînes satellitaires,
il y a une considérable, et je suis d'accord, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de culture développée de manière très large, pour une audience très large, c'est absolument absent et ça disparaît de plus en plus. Et ça, c'est un vrai danger pour la démocratie.
Alors, beaucoup d'alertes, beaucoup d'idées également dans le cadre de ce grand débat culture que vous avez lancé, Fabrice Bousteau, en tant que responsable de Beaux-Arts Magazine, en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. Il a démarré ce grand débat culture le 18 février. Il y a déjà eu deux rendez-vous à Paris, quelques-uns en province. L'un a eu lieu au 104 à Paris hier soir, l'autre mardi dernier au Beaux-Arts. Le ministre de la Culture a passé une tête d'ailleurs mardi dernier et Margot Bédé y a assisté pour nous. Voici son reportage.
Bonjour et bienvenue à tous.
Sous la verrière de l'École des Beaux-Arts de Paris, le débat est lancé. Premier thème, la culture pour tous. Un homme se lève et raconte le succès de son café culturel.
On organise des vernissages, on a une bibliothèque collaborative, c'est-à-dire qui est créée par les habitants de la commune eux-mêmes.
Un autre propose des passes culture pour les petits revenus. La parole est maintenant donnée à l'acteur et réalisateur Charles Berling.
J'ai vécu pas mal de débats et on se retrouve en France souvent dans des débats qui sont monosexes et monoâges. C'est-à-dire que c'est assez grave. Je pense que déjà, là on a ici, je jette pas la pierre à ceux qui organisent le débat ici, mais il faut le signaler.
Seule une petite partie de la salle applaudit. Le comédien doit partir. Il prend quelques minutes pour s'expliquer.
Comme souvent, je l'ai constaté dans ces débats sur la culture en France et où il est question justement de pourquoi la diversité française, et je parle évidemment aussi de cette chose terrible et flagrante et permanente de l'inégalité homme-femme, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui concernent la diversité française et souvent elle n'est pas représentée même dans ces débats. Donc ça commence comme ça. Débat, quand je vois 5 ou 6 hommes de 60 ans avec des cheveux blancs et tout blancs eux-mêmes, déjà je me dis, bon, alors elle est où la diversité pour en parler?
Le hasard fait bien les choses, le jeune Abdelilah Laloui se lève.
Chaque semaine, on entend que la part de nos élèves qui
se sentent pas à leur place dans un musée, dans un théâtre.
Il est le président de Tous Curieux, association qui organise des sorties culturelles avec des établissements scolaires en zone d'éducation prioritaire.
On vient de banlieue, on est des Arabes, des Noirs, et on dit la culture c'est aussi pour nous.
Merci.
L'intervention d'un participant sur l'art néo-baroque achève de convaincre la jeune artiste Clara Borgen.
Je venais un peu par curiosité, mais pour l'instant pas grand-chose, je dois avouer. Je trouve que c'est très très institutionnel. Et
la richesse de la création de demain.
On est encore dans des schémas qui moi, ne me correspondent pas du tout et qui sont... C'est dépassé tout ça, quoi. Il faut qu'ils s'en rendent compte, les mâles blancs de 50 ans.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, semble en avoir conscience.
La culture, elle doit être diverse. Ça doit être diverse au niveau générationnel, elle doit être diverse au niveau des origines, elle doit être diverse dans les idées, dans les regards. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire au niveau du ministère.
Arrivé en cours de débat, il prévient.
Alors j'aurai pas de baguette magique, je réglerai pas tous les problèmes d'un seul coup, mais ce que je m'engage à faire, c'est à regarder toutes les propositions, essayer de trouver des réponses concrètes.
La suite du débat aura lieu au 104.
22h, le débat s'achève, la salle est clairsemée. Si certains repartent déçus, le directeur des Beaux-Arts de Paris, Jean Deloisy, est au moins satisfait d'une chose.
Moi, je pense que c'était indispensable que la culture entre dans le grand débat, parce que ce grand débat met le point sur ce qui doit nous rassembler, qui est le sens même de notre humanité, et la culture, c'est ce qui caractérise le fait d'être humain.
Les résultats de cette consultation seront remis au président de la République et au ministre de la Culture le 15 avril prochain.
Reportage de Margot Bédé. Alors Fabrice Bousteau, vous avez entendu évidemment au Beaux-Arts mardi et puis dans ce reportage, hein, Charles Berling, comédien, acteur mais aussi directeur du théâtre Liberté à Toulon, quand il dénonce finalement dans ce débat une forme d'entre-soi. Est-ce que c'est pas ça aussi l'une des manifestations de la fracture culturelle qu'on évoquait? Est-ce que le monde de la culture ne serait pas un monde un peu hors sol, coupé des réalités, à se regarder un petit peu le nombril?
Alors, premier point, c'est que Charles Berling était un des premiers à organiser à la scène nationale de Toulon des débats sur la culture et on a été très peu nombreux, somme toute. Deuxième constat, c'est que ces débats, ils sont ouverts à tout le monde, qu'on a tout fait par le biais des réseaux sociaux, par le biais des médias et par le biais de cette plateforme qui touche tout le monde, d'attirer tout le monde. Hier, on a fait un grand débat au 104, que ce soit au 104 19e arrondissement ou que ce soit dans le 6e arrondissement à l'école des Beaux-Arts, le constat, c'est qu'effectivement, il y a peu de gens jeunes. Il y a peu de gens, pour dire concrètement, issus de la diversité, c'est-à-dire noirs, de toutes les cultures de la diversité. Il y a un peu moins de femmes que d'hommes, mais il y a quand même beaucoup de femmes dans le domaine de la culture. Ça, c'est un constat. Donc ce constat, il vient pas de... c'est pas qu'on ne les a pas invités, c'est qu'on les a invités, c'est qu'ils ne viennent pas. Donc,
alors comment est-ce que vous expliquez ça, Fabrice Bousteau?
Il y a un problème sur le rapport entre la jeunesse, sans doute, et l'engagement et le fait d'aller sur des débats. Il y a plusieurs, j'en fais une parenthèse, mais que aujourd'hui il y a un débat qui est organisé à la Cité de la bande dessinée d'Image Angoulême. Il y en a un autre à la Condition publique de Roubaix. Il y en a un autre demain dans l'Essonne, cher à Philippe Pascot. Il y en a un peu partout là, et ça est en train de faire boule de neige. Malheureusement, tous ces débats vont être clos le 15 mars. Encore une fois, c'est qu'on n'a pas donné tellement la voix à la culture et que peut-être que les jeunes ne sont pas concernés parce que, comme le disent plusieurs philosophes, il y a une forme d'individualisation des pratiques en France et qu'on ne considère pas qu'on est pour ou contre la culture ou que la culture est importante. On écoute chez soi du hip-hop et puis on lit Virginie Despentes ou on a un ensemble de goûts d'agrégation et en fait, l'idée de la mobilisation, de la conversation et du débat, c'est pas quelque chose qui est tellement développé en France. Moi, à mon sens, l'une des meilleures choses qui soit arrivée dans ces grands débats, ce grand débat national, ce grand débat de la culture, c'est le goût peut-être qui commence à être retrouvé de parler. Moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment impressionné hier au 104 par les 500 participants qui sont venus et qui tous disaient: qu'est-ce que ça fait du bien de parler?
Alors, ça, c'est intéressant.
La chose qui était dommage, c'est que la salle était en bas du 104 et au-dessus, il y avait plein de jeunes hommes, de jeunes filles fabuleux qui faisaient des breakdances et ils continuaient à faire du breakdance et ils ne descendaient pas dans la salle.
Alors, Pierre Cerna.
Oui, vous me permettrez de répondre en tant qu'historien qui vit, en tant que citoyen qui vit beaucoup plus dans le 18e siècle que le 21e siècle.
Allez-y.
C'est ma déformation professionnelle et j'en suis très heureux. Qu'est-ce que ça veut dire, la culture dont on parle depuis le début, et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Le mot culture, tel que moi je le comprends et tel que nous sommes les héritiers des Lumières, je l'espère, encore au 21e siècle, il y en a quelques-uns qui sont guidés par la raison et par les Lumières et le goût de la liberté et de l'égalité, c'est une culture qui est critique. Derrière le mot culture, il y a le mot critique. Savoir critique, pensée critique, attitude critique et posture critique. C'est Descartes qui l'a inventé, c'est Voltaire qui l'a développé en étant un dissident, et c'est toute la pensée des Lumières qui a dit « Notre savoir sert à critiquer l'arbitraire de tous les pouvoirs ». C'est ça la culture. Donc c'est pas simplement la beauté, c'est pas simplement l'esthétique, c'est pas simplement la musique ou l'opéra. La culture, c'est un savoir critique. Et il n'y a pas d'un côté en haut ou en bas le breakdance et en haut ou en bas une culture. Il y a des cultures qui sont des cultures en rupture par rapport à des pouvoirs, par rapport à des institutions. Et donc je pense que ce qui est très important, en fait, c'est de penser que au XVIIIe siècle, puisqu'on reprend cela aussi, puisqu'on parle de comparaison, il y a une culture de la dissidence, c'est-à-dire des gens qui, dans l'élite, comme durant l'Union soviétique, des gens qui, faisant partie de l'élite, déconstruisent le moteur de l'intérieur, parce qu'à un moment donné, ce sont des êtres humains, et bien que profitant du système, leur conscience humaine est plus forte, et ils se disent « je ne veux plus participer à ces injustices ». Et ils rejoignent aussi des gens qui, sans faire partie du système, peuvent avoir aussi un discours critique, c'est-à-dire une attitude critique qui, sans mobiliser les concepts, sans mobiliser tout le savoir, peuvent, de par leur prise de conscience, c'est-à-dire un bon sens populaire, développer une culture qui est également critique. Et alors, quand ça se retrouve, on est à l'été 1789.
Philippe Pascou.
Je rejoins en partie Eric. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le grand débat ou la culture, malheureusement, on s'aperçoit que ce n'est que de la propagande. Et à partir du moment où vous avez une culture de propagande et un grand débat de propagande, la plupart des gens et la plupart de l'ensemble du population ne peut pas y croire. Parce que déjà, il a été berné, on lui a menti. Et on lui propose une culture, et on lui propose des grands débats qui ne sont que de la propagande.
Alors,
je suis d'accord.
Je vous pose la question à Fabrice Bousteau, alors, est-ce que vous participez à une forme de propagande?
Mais c'est clair.
Est-ce que je participe à une forme de propagande
en participant au grand débat national? C'est un petit peu ce que nous dit, pas un petit peu d'ailleurs, ce que nous dit Philippe Pascou.
Mais tout à fait honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui participent de façon honnêtement, en pensant que ça va apporter une pierre à l'édifice. Ça apporte rien du tout, puisque les réponses sont déjà là. Les questions sont déjà
alors,
posées.
Alors, en même temps, il faut reconnaître que ce que Fabrice Bousteau a toujours dit depuis le début du débat, et ce que dit Beaux-Arts Magazine, c'est que l'important, c'est de faire des propositions.
Donc, mais il y a une dimension réellement. Quand on n'écoute pas les propositions, monsieur.
Mais ça, on verra bien. On verra bien à la fin du débat ce qui va arriver.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions de culture réelle à la télé.
Fabrice Bousteau.
Moi, j'ai une culture, du pessimisme, et la culture du pessimisme, ça entraîne d'être actif pour essayer de chercher des solutions. J'ai pas du tout envie d'être en dehors de ce grand débat. À partir du moment donné où la République et le président de cette République proposent à tout le monde de débattre, il me semblait essentiel que nous débattions. On s'est engagé auprès des internautes et auprès de tout le monde, auprès des médias, à réaliser une synthèse dans les 15 ou 20 jours à l'issue des grands débats consacrés à la culture, c'est-à-dire comme le grand débat des nationales le 15 mars, et cette synthèse à la rendre publique, à la transmettre au président et à la transmettre au ministre de la Culture. Croyez bien que cette synthèse va être faite, et il y a beaucoup de propositions, et franchement, il y a des propositions absolument géniales.
Alors justement, pardon de vous couper, Fabrice Bousteau, mais on va justement s'intéresser à quelques-unes des propositions que l'on retrouve sur cette plateforme participative que vous avez ouverte, granddebatculture.fr. Il y a un peu plus de 2600 contributions, et notre reporter Amélie Beaucourt est allée butiner quelques idées.
Se rendre à la bibliothèque un dimanche ou aller au musée après une journée de travail, c'est ce que suggèrent une centaine d'internautes sur la plateforme. C'est le thème qui mobilise le plus, rendre accessible la culture à tous. Si cela passe par un élargissement des horaires d'ouverture, d'autres mettent en avant la nécessité d'avoir des sites bien desservis par les transports. Mais c'est surtout le coût des activités culturelles qui préoccupe le plus. Sans argent, difficile de s'offrir un billet pour une pièce de théâtre ou un concert. Alors pourquoi ne pas rendre les musées totalement gratuits pour les scolaires ou élargir à tous le pass culture, ce crédit de 500 € à dépenser dans des activités culturelles que l'État veut donner aux jeunes de 18 ans. Autre thème du grand débat, l'éducation artistique et le rôle de l'école. On pourrait donc voir se développer des partenariats entre un établissement scolaire et une institution culturelle comme une salle de spectacle, un cinéma ou encore un musée. Les idées pour améliorer le patrimoine fusent également. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le nom de Johnny Hallyday a récemment été proposé pour renommer l'aéroport d'Orly ou encore le Stade de France. Dans le viseur, notamment la langue française, une participante réclame une grande simplification de son orthographe, considérée comme trop complexe et créatrice d'inégalités entre ceux qui la maîtrisent et ceux qui ne la maîtrisent pas. On s'acharne surtout à trouver des idées pour financer la préservation du patrimoine matériel, comme faire payer les touristes qui fréquentent les sites à préserver, en allouant une partie de la taxe de séjour à leur restauration. Au total, c'est plus de 2680 contributions qui ont été enregistrées. Les internautes ont jusqu'au vendredi 15 mars pour formuler leurs propositions.
Alors, qu'est-ce que vous retenez jusqu'à présent, Fabrice Bousteau, de toutes ces propositions glanées sur votre plateforme participative ?
Alors, ce que je retiens déjà, c'est qu'il y a beaucoup de propositions de gens très différents. Hier, par exemple, au 104, c'était très marquant de voir des enseignants qui faisaient des propositions très concrètes. Ce que je retiens, la synthèse n'est pas encore réalisée. Mais je retiens des choses, par exemple, qui sont apparues qui n'étaient pas du tout évidentes. Beaucoup se sont rendus compte que il y avait, d'une certaine manière, une dilution de toutes les petites structures associatives qui n'étaient plus aidées aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les maisons de la culture de Malraux, moi qui suis né dans une petite ville en France, Chaumont-Haute-Marne, de 20 000 habitants, où il n'y avait ni théâtre ni musée, depuis que l'angle y est passé, il y a théâtre et musée et cinéma, mais il y avait juste une maison de la culture où j'ai fait mon apprentissage du cinéma, de littérature et de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a besoin d'irriguer dans toute la France, c'est ce qui ressort, d'aider des petites structures associatives à développer la culture un peu partout. C'est vrai que, par exemple, dans le reportage, on parlait de le patrimoine. Une proposition a été faite de faire, comme ça se fait d'ailleurs dans un certain nombre de pays étrangers, une taxe de séjour, pas grand-chose, hein, 2-3% supplémentaire pour les touristes qui viennent en France, qui permettrait de lever plus de 200 millions d'euros pour le patrimoine. Il y a un ensemble de structures qui vont de propositions qui va de méga-propositions à des minuscules propositions. Par exemple, exemple de petites propositions, d'aller dire que chaque Français devrait avoir une sorte de crédit formation payé par les entreprises dans le cadre des formations des entreprises, aussi à la culture. On a un petit crédit comme ça à pouvoir toucher pour se former, par exemple, aux pratiques amateurs. Les pratiques amateurs, elles sont totalement dévalorisées aujourd'hui en France. Or, de plus en plus de gens ont envie de le faire. Il n'y a qu'à voir l'état des conservatoires de musique pour les enfants. Il y a beaucoup plus de demandes que de places disponibles. C'est ces ensembles d'éléments qui vont être importants. Et donc, évidemment, nous, on va en proposer la synthèse, oui, en montrant ce qui ressort en priorité, et après, au ministre de la Culture et au président de la République, de prendre des décisions concrètes.
Et de s'en emparer ou pas.
C'est ce à quoi s'est engagé le ministre de la Culture. Et croyez bien, pour finir, qu'en tout cas, nous, Beaux-Arts Magazine, on est aujourd'hui le mensuel le plus vendu en France. Eh bien, on va suivre ça avec attention et on rappellera à l'ordre, s'il le faut, le ministre. Alors, si ce n'est pas ça n'en ferait pas des suites.
Bon, Philippe Pascaud, vous semblez y croire très moyennement.
Mais moyennement, parce que tout ce que proposent les gens, malheureusement, c'est des pansements, encore une fois. Donc un pansement, c'est pas ça qui va faire revenir la culture,
mais
encore
une fois. Mais quand Fabrice Bousteau explique qu'il faut aider, les initiatives locales, voire micro-locales,
ça fait 30
est-ce que
ans,
c'est pas du terrain, justement, que viennent une partie des solutions.
Ça fait 40 ans que j'entends ça. Ça fait 40 ans que la culture locale que ça est en train d'être détruite petit à petit par manque de moyens. On dit, c'est vrai, il faut ouvrir les bibliothèques le dimanche. Mais je peux vous dire que ça se fera jamais. Parce qu'il faudra payer du personnel en plus, et qu'on le fera pas. Et commençons par redonner envie aux gens de lire. Commençons par donner aux enfants.
Donc on en revient toujours à l'éducation.
Mais c'est évident. De ce point de vue-là, vous êtes aujourd'hui, McDonald's est en train de rentrer dans l'éducation. Est-ce que vous croyez que quand un enfant va apprendre à compter un McDo plus un McDo égale deux McDo, ça va favoriser la culture?
Philippe Pascaud,
Fabrice Bousteau.
Je crois vraiment aux initiatives concrètes. Je prends un exemple. Martine Aubry, maire de Lille, a décidé il y a 3 mois que tous les musées de la ville de Lille seraient gratuits tous les dimanches pour les Lillois.
Elle a un courage politique.
Beaucoup de gens avaient dit au départ, ça sera pas possible parce que je passe les détails, la loi ne permet pas qu'on fasse une préférence, etc. Elle l'a fait, ça marche, ouais. C'est un grand succès.
Bravo.
Je crois vraiment à ce grand débat pour pouvoir permettre des idées concrètes à se mettre en œuvre, et c'est les petits ruisseaux qui feront les grandes rivières.
Pierre Cernat.
Je crois, on est déjà le pays de France, le pays au monde qui consacre le plus d'argent à la culture, mais ce n'est pas suffisant, je suis d'accord avec vous.
La parole à l'historien.
Oui, je voudrais dire quelque chose qui peut-être intéressera plus particulièrement les auditeurs de RFI. Justement, quand on parle de culture, et j'entends parler de culture, je pense plutôt aux cultures et à plusieurs cultures. Il me semble que, un, non seulement Fabrice Gousteau a raison, il faut participer au débat national. Car si les Français n'avaient pas rédigé 60 000 cahiers de doléances en 1789, ils ne se seraient pas construit une culture politique capable de comprendre ce qui se passait à l'été 89. Donc il faut y participer, à mon avis. Mais il faut garder la distance critique nécessaire pour agir. Et il faut aussi développer et aussi prendre en considération, parce que c'est méprisé au sommet de l'État, c'est ignoré au sommet de l'État, l'existence de cultures parallèles. Et je vais prendre un exemple, celui de l'Empire colonial français en 1789. Les planteurs imposent un régime esclavagiste d'une violence inouïe à Saint-Domingue, en Martinique, à la Guadeloupe. Comment les esclaves vont-ils réagir? Est-ce que les esclaves n'ont pas de culture? Mais c'est tout le contraire. Ils apportent une culture religieuse, celle du vaudou, celle des sociétés secrètes, celle de la clandestinité. Et on se moque de cette culture-là, on se moque de leur culture en disant « mais c'est rien du tout, ça, c'est en fait des rites africains qui sont arriérés ».
Et est-ce qu'on peut transposer cette critique-là au XXIe siècle aujourd'hui?
Ces rites africains arriérés vont leur permettre de construire des sociétés secrètes qui vont les réunir à Bois-Caïman, au nord de Saint-Domingue, en août 1791, et provoquer la grande révolte des esclaves de Saint-Domingue qui va mettre à bas le pire des systèmes, l'esclavagisme. Attention, il y a des cultures parallèles aussi qui sont très fortes et qui sont très puissantes.
J'avais pas pensé au vaudou pour se débarrasser de Macron, mais c'est une bonne idée.
En tout cas, Fabrice Bousteau, est-ce que ce qui surnage finalement des deux débats que vous avez organisés à Paris, et puis il y a tous aussi les débats de province, hein, il faut pas évidemment les oublier, c'est pas l'échec finalement de la culture pour tous, l'impression qu'il y a une forme de ségrégation culturelle qu'on ne parvient pas aujourd'hui à annihiler.
Ce qu'on n'a pas réussi à annihiler, en fait, c'est que effectivement, c'est globalement les mêmes catégories sociales, ça a quand même évolué au cours des 40 dernières années, qui sont des consommateurs culturels, c'est-à-dire qui vont dans les théâtres, qui vont dans les musées, et donc il y a une forme d'échec de la démocratisation à la culture. On est tous d'accord, tous depuis très longtemps, que ça passe avant toute chose par l'école. À force de le dire, dites-vous que ça a été une priorité de François Hollande qu'il n'a pas totalement mis en œuvre. C'est la priorité, dans les deux engagements du président de la République actuel sont le pass culture et l'éducation artistique à l'école. À force de le dire et le répéter, ça met peut-être du temps, mais ça va peut-être passer. Évidemment que cet échec de la démocratisation, il passe avant toute chose par l'école, mais il passe également. Ça, on n'en parle pas assez, on s'étend de grands débats et de gilets jaunes. Il passe aussi par un nouveau rapport à l'autre. Il passe par le fait que les gens s'entraident, se parlent. On ne peut pas attendre non plus tout de l'État. Et des choses qui m'a frappé et qui, pour tout vous dire, m'a fait pleurer deux fois au cours de ces débats, c'est de voir le nombre de jeunes et de vieux qui s'engagent à titre personnel, qui créent des petites associations et qui favorisent le développement de la culture partout auprès des immigrés qui en ont, auprès des migrants qui en ont bien besoin.
Merci
auprès
beaucoup.
Des handicapés, c'est sympa, Fabrice. Etc. Et ça, on a envie d'y croire.
Merci beaucoup à tous les trois, Fabrice Bousteau, Philippe Pascoe et Pierre Cernat. Dans un instant, l'info sur RFI, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.